Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force et l'honneur, à lui la gloire et le pouvoir dans les siècles des siècles. Mes très chers frères, aujourd'hui l'Église nous fait célébrer la royauté universelle du Fils éternel de Dieu. Il est l'agneau immolé qui est digne de recevoir la puissance, la divinité, la sagesse, la force et l'honneur, car il a racheté ses élus par son sang qu'il a versé pour nous au calvaire. Il est par nature roi et son règne est indépendant du consentement des hommes. Nous avons plusieurs choses à voir aujourd'hui avec l'aide de Dieu dans cette fête du Christ roi. Premièrement, nous nous posons la question, le Christ règne-t-il? Et nous ferons brièvement un tableau de ce qui n'est pas son règne. Ensuite, en deuxième point, nous verrons rapidement quelques points de l'enseignement du pape Pie XI sur la royauté universelle du Christ. Nous verrons, cela nous amènera à voir, à nous poser la question et à constater qui est catholique. Comment on s'abuse communément de nos jours. Et ensuite, en troisième point, nous verrons quelques caractéristiques de ceux sur qui le Christ règne, de ceux qui font partie du royaume de Dieu. Et nous verrons aussi comment ne pas être trouvé au nombre des infidèles. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
écoutez ce que dit l'apôtre saint Paul dans l'épître aux Colossiens. Mes frères, rendons grâces à Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Mes très chers frères, parler de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ, chaque année, est un exercice pénible et douloureux à cause de la multitude des scandales qui semblent apporter un démenti à cette doctrine, doctrine qui appelle naturellement un état de fait social et qui est, pour ainsi dire, invérifiable à l'heure actuelle. L'année dernière, à la même époque, à Rome, nous avions vu l'imposteur introniser, enfin en tout cas faire entrer dans la basilique Saint-Pierre avec grande cérémonie une idole païenne. Et aujourd'hui, dans ce même un an après, eh bien, nous apprenons qu'il se déclare pour certaines formes de mariage qui n'en sont pas. Alors, nous n'allons pas parler de ces choses, de ces dernières facéties, les dernières facéties de François, parce que d'une part, ces choses-là sont régies par le Nec Nominetur, ces choses-là, on ne doit pas en parler parmi les saints, mais il y a beaucoup, beaucoup pire, si j'ose dire, il y a bien pire, il y a bien, bien pire, mes très chers frères, si nous devions, nous ne le devons pas, mais si nous devons douter du règne du Christ roi, il y a des, et nous, ce que nous ne devons pas faire, mais si nous devions nous laisser tenter, il y a des tentations beaucoup plus fortes que les facéties de François. En réalité, mes très chers frères, il n'y a qu'à voir l'arrogance des laïcs militants qui sont désormais, enfin ça fait déjà un moment, mais qui sont en quelque sorte érigés en magistère quasi infaillible, puisqu'ils répercutent le magistère infaillible des papes, et ils sont donc infaillibles, et malheur à ceux qui les contredisent, ou malheur à ceux qui ne les approuvent pas, malheur à ceux qui n'approuvent pas la moindre de leurs respirations, la moindre de leurs entreprises. Ceci fait partie des scandales qui nous affligent au moment de fêter la royauté universelle du Christ. Il y a encore d'autres choses. Il y a une infatuation d'eux-mêmes, de ces gens, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire proche. C'est-à-dire que depuis les quelques décennies, le petit siècle où les laïcs militants s'érigent en paramagistère ou en supermagistère et en censeur universel, on n'a jamais vu une telle infatuation, une telle vanité. Ils se jettent des fleurs, mais alors autrefois c'était discret, Et aujourd'hui, ça fait quasiment partie de leur discours. Ça fait partie de leur discours. C'est quelque chose qui est tout à fait désolant. Ça n'a pas d'équivalent dans l'histoire proche. Ils n'ont jamais autant cru en eux-mêmes. Ils n'ont jamais autant cru en eux-mêmes. Ils s'imaginent que quelques blogueurs, quelques conférenciers, quelques écrivains vont renverser le monde moderne, vont résister, puis imposer la loi du Christ. Enfin, on n'a jamais vu une telle naïveté. Il y a comme un souffle satanique qui passe aujourd'hui dans ce qui reste apparemment de catholicisme, et que je prends avec des guillemets. Que j'utilise avec des guillemets. On voit une démultiplication des initiatives des bras cassés, et quand je dis bras cassés, je ne dis pas des idiots, parce qu'ils sont loin d'être idiots, ce n'est pas ça la question du tout, et je ne remets pas du tout leur qualité, leurs compétences en question. Mais il y a un déluge, un déferlement d'initiatives de bras cassés, d'idéalistes inconscients, personnes qui, à l'âge où l'homme païen de base, si j'ose dire, à l'âge où on commence à faire preuve à devenir quelque peu raisonnable, à faire preuve d'une certaine, une certaine pondération adulte, ils se comportent comme des gamins, avec un discours de gamin, et font preuve d'une étourderie, d'une arrogance, d'un orgueil naïf qui laisse bouche bée. Voilà ce qui est beaucoup plus choquant et ce qui est beaucoup plus scandaleux que les dernières facéties de François, qui de toute façon n'est pas catholique. Vous voyez, mes très chers frères, ils s'imaginent être catholiques, tous ces gens-là, alors qu'ils ne sont que des auto-agrégés à une église qui n'existe que dans leur imagination. Puisque, pour accéder au sacrement, ils s'ingénient à bricoler une pratique, une casuistique sacramentelle qui défie non seulement les lois de l'Église, mais encore le bon sens et la politesse et l'honnêteté la plus élémentaire. C'est-à-dire qu'on va communier en se bouchant le nez, on va communier mais on n'écoute pas les sermons, on va communier et on critique la position des prêtres et des évêques, dont ces prêtres dépendent parfois. Cette église catholique est dans leur tête, c'est une église imaginaire à laquelle ils se sont agrégés le jour où ils ont compris que en fait il y avait une part de marché à prendre dans ce petit monde des alentours de l'église moderniste, qu'on appelle le monde cédévacantiste, au sens très très large du terme, ou le monde traditionnaliste, encore plus large, au sens encore plus large du terme. Et je ne parlerai pas, bien sûr, des clercs qui, par leur esprit d'indépendance et leur rébellion, sont les fourriers de la damnation de tous ceux qui ont recours à eux. Par décence et par solidarité cléricale, je ne parlerai pas d'eux, mais croyez bien qu'il y aurait bien des choses à dire d'eux. Voilà un bref tableau, mes très chers frères, un tableau avec des couleurs récentes, de ceux qui ne constituent pas le règne du Christ. Tout ceci n'est pas l'Église, tout ceci n'est pas le règne du Christ, tout ceci n'est qu'une entreprise autogérée d'aventuriers, de bras cassés, d'idéalistes inconscients, de naïfs orgueilleux, et quand ce n'est pas autre chose. Mes très chers frères, qui est catholique dans tout ce fourbi? On se demande. Mes très chers frères, le Christ règne-t-il sur ces gens-là? Certainement pas. Le Christ règnera-t-il grâce à ces gens-là? Encore moins, mes très chers frères, encore moins. Cela nous amène à parler rapidement de certains points de doctrine que Pie XI a voulu exposer dans diverses de ses encycliques pour enseigner à l'humanité la doctrine du règne universel de notre Seigneur Jésus-Christ. Car notre Seigneur Jésus-Christ règne, il n'est pas découronné, et il ne sera pas non plus couronné par la bande des militants. Dans l'encyclique Ubi Arcano, voici ce que dit le pape Pie XI. Il n'y a pas de paix du Christ, il n'y a de paix du Christ que par le règne du Christ. C'est une formule lapidaire, c'est une sorte de maxime qu'il nous enseigne. Il n'y a de paix du Christ que par le règne du Christ. Fin de citation. Or, mes très chers frères, le règne du Christ se manifeste par l'ordonnation de la société parfaite qu'est l'Église. le Christ ne peut pas régner sur les nations si l'Église n'est pas soumise au Christ. Comment l'Église ne pourrait-elle ne pas être soumise au Christ? L'Église est toujours soumise au Christ, heureusement, puisqu'elle est pure, sans tache, sainte, parfaite. Mais il se trouve donc qu'il y a un principe pour juger une société d'hommes qui se prétendent soumis au règne du Christ, c'est de voir s'ils sont dans l'ordre, si chez eux ou parmi eux règne la paix qui est la tranquillité de l'ordre, selon la formule classique de notre Saint-Père Saint-Augustin. Parler d'ordre, mes très chers frères, ce n'est pas être dans l'ordre. Avant de songer à couronner un pape, apprenez, mes très chers frères, à être soumis aux autorités légitimes qui existent et qui sont déjà là. Avant de vouloir imposer la loi du Christ aux sociétés, par le biais de la fabrication de médias catholiques provenant de la convergence de toutes sortes d'initiatives d'hommes et de femmes de bonne volonté, avant de vouloir imposer la loi du Christ aux sociétés, commencez par être capable de régler votre famille selon les maximes de l'Évangile. Commencez par être capable de fonder une famille et de ne pas être un vulgaire geek, finalement catho, qui délire comme d'autres sur un sujet de Christ roi, que sais-je, comme d'autres délirent sur les jeux vidéo, comme d'autres construisent leur monde avec certains jeux vidéo, comme nous en parlions la dernière fois. Tout ceci, c'est la même chose. Commencez par être vraiment soumis aux autorités légitimes. Commencez vraiment par ordonner votre famille et si possible, en fonder une. Voyez, mes très chers frères, je dis ceci pour, non pas pour enfoncer les gens ou pour jeter la pierre, je dis ceci pour encourager à prendre conscience que ce n'est pas parce que l'on parle de l'ordre et que l'on parle du règne du Christ roi que l'on est soumis, que l'on est un sujet du Christ roi. On en parle, et parce qu'on en parle, on se trouve de facto au-dessus du sujet dont on parle. Et ça, c'est typique des philosophes modernes, philosophes entre guillemets, de la modernité, en modernité, c'est-à-dire que ce sont des gens qui préconisent un système, qui préconisent un système pour les autres, et qui, eux, vivent totalement différemment. Alors, vous allez dire, mais je suis soumis au Christ roi, je pratique les vertus, je m'abstiens des péchés, etc. Et je ne remettrai pas en question votre parole. Après tout, c'est vous qui le dites, pourquoi en douter? Mais la réalité sociologique que constitue toute cette petite masse relativement grouillante de militants, n'est pas une société ordonnée. C'est une société de désordre qui cherche désespérément un ordre et qui, en cherchant l'ordre, finalement accroît le désordre. Avant de songer à élire un pape, apprenez à soumettre, à être soumis aux autorités légitimes et à ordonner votre propre famille, quand vous en avez une, si par hasard vous en avez une, aux maximes de l'Évangile. Ceux qui ne sont pas mariés sont les champions, d'une orthodoxie idéaliste et ce sont les bouts de feu de bûcher à n'en plus finir. Et ceux qui sont mariés, eh bien finalement, ils tombent immédiatement dans le compromis. Pourquoi? Parce qu'ils sont absolument incapables, ou bien d'imposer à leur femme le bon exemple, leur bon exemple, l'exemple d'un catholique orthodoxe ordonné, ou bien qu'ils sont incapables d'imposer à leurs enfants, ou même de pourvoir à leurs enfants, un cadre réellement ordonné, selon la réalité, même minimale, même réduite à quasiment rien, mais la réalité réelle de l'Église, si j'ose dire. Quel malheur que cette doctrine du Christ roi, qui est claironnée par une multitude de gens, qui, si la manifestation de la royauté du Christ était un tout petit peu plus visible à notre époque, ces gens-là apparaîtraient pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des rebelles, des francs-tireurs, des gens incapables d'être agrégés à la société chrétienne, tant les clercs que les laïcs. Commencez par être capable de fonder un foyer avant de commencer à penser à une société des nations catholiques qui régirait l'univers tout entier selon les lois qui vous sortent de votre pensée quand elle est capable de penser. Commencez par ordonner votre propre vie, mes très chers frères, en la gagnant honnêtement, et non pas en essayant de racketter, si vous me permettez l'expression, les fidèles d'une manière ou d'une autre, sous prétexte de les instruire. On n'a jamais vu autant de maisons d'édition sortir aujourd'hui. On n'a jamais vu, après un temps très long de reprint, avec quelques plaquettes qui sortaient, aujourd'hui, carrément, il y a des livres nouveaux. Il y a même de la prétention à la littérature. Moi, j'appelle ça du racket. On rackette les fidèles qui ne sont pas capables de faire un blog, qui ne sont pas capables de faire une émission sur l'Internet, et qui ne sont pas capables d'écrire un livre. Et la moitié de cette foule rackette l'autre, sous prétexte que l'une enseigne l'autre. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles, et notre Seigneur prédit qu'ils tomberont dans la fosse. Et la faute, ils ont déjà un pied dedans. Vous voyez, mes très chers frères, au lieu de racketter vos semblables, en leur vendant toutes sortes de choses qui sont absolument sans aucun contrôle ecclésiastique, et ne me dites pas que tel ou tel clerc a fait une préface ou quoi, ce n'est pas ça le contrôle ecclésiastique. Je parle de la censure ecclésiastique. Eh bien, mes très chers frères, au lieu de racketter votre prochain en essayant de lui soutirer quelques sous pour financer votre apostolat, gagnez honnêtement votre vie. Gagnez honnêtement votre vie, fermez votre bouche et allez travailler. Voilà ce que je dirais à ceux qui veulent véritablement et sincèrement, et je ne doute pas que ces gens-là le veuillent sincèrement, autant que la sincérité leur est capable, ils sont capables de sincérité, mais des gens qui veulent être sincèrement soumis au règne du Christ roi, à cela je leur dis, arrêtez d'en parler et commencez par en être. Écoutons encore sa sainteté Pie XI. Il ne saurait y avoir, dit-il, aucune paix véritable, cette paix du Christ, si désirée, tant que tous les hommes ne suivront pas fidèlement les enseignements, les principes et les exemples du Christ dans l'ordre de la vie publique comme dans la vie privée. Fin de citation. Et il en tire la formule, le règne du Christ dans la paix du Christ. Il n'y a de paix du Christ que par le règne du Christ. Or, nous l'avons dit, la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Cette tranquillité de l'ordre se manifeste pour les fidèles par une vie ordonnée qui soit capable, ça c'est une marque spécifique de la vie vraiment ordonnée et non pas imaginairement, c'est-à-dire fallacieusement ordonnée. La vie, une vie véritablement ordonnée, c'est une vie qui est capable de transmettre la foi intégrale de génération en génération. Êtes-vous capable de transmettre la foi à vos enfants de telle sorte qu'ils aient la même foi que vous? Alors, évidemment, tout le monde va dire, ben, je pense bien, je veux bien, c'est ce que je fais, etc. Encore une fois, personne ne voudrait dire le contraire, personne ne pense faire le contraire. Mais êtes-vous capable de transmettre la foi qui est la vôtre à vos enfants? Évidemment, on se pose la question de la nature de votre foi. La foi d'un chrétien totalement désordonné n'est certainement pas la foi orthodoxe. C'est une foi évolutive en réalité. Alors, j'entends des gens pousser des cris. Non, non, c'est une foi qui ne peut pas être orthodoxe, puisque la foi sans les œuvres est morte. Donc si vous ne voulez, je ne dis pas que c'est une foi hérétique, on n'est pas là dans l'hérésie, on est là dans le désordre. C'est une foi qui est morte, si c'est une foi qui n'a pas les œuvres de la foi. Et cette foi qui est soi-disant celle de ceux qui se font les champions l'anti-modernisme, eh bien, cette foi, est-ce qu'elle ne se manifeste pas? Alors ce n'est pas vrai pour tous, bien sûr, mais est-ce qu'elle ne permet pas des alliances avec les mécréants, des alliances avec des gens qui ont des positions, tout en se disant catholiques, mais qu'est-ce que ça veut dire être catholique, qui ont des positions absolument contraires à l'orthodoxie. Je ne parle pas des hérétiques, je parle des mécréants, de ceux qui croient mal. Ces gens-là s'allient avec des mécréants, avec des femmes totalement féministes qui déblatèrent contre les hommes. Ces gens-là répercutent les livres de maisons d'édition ou de librairies qui vendent toutes sortes de livres qui intoxiquent ceux qui les achètent et qui les lisent. Ces gens-là ne font-ils pas alliance avec les néo-païens, avec les libéraux? On voit des gens qui qui se font les champions de l'Église et qui doivent leur notoriété au fait qu'ils collaborent à des partis, à des organisations qui sont ouvertement marcionnistes, qui sont ouvertement libérales, qui sont ouvertement hétérodoxes, et qui ne sont même pas d'accord avec eux du point de vue des détails de la foi. Voilà un exemple délétère, mes très chers frères, pour les enfants. Voilà qui, loin de leur transmettre la foi intégrale, la foi dont vous semblez être imprégné, dont vous semblez vibrer de tout votre être, voilà qui leur enseigne le relativisme religieux. Vous pratiquez, mes très chers frères, le tradi-œcuménisme. C'est-à-dire que, tout en prétendant être ultra-catholique, être vrai catholique, etc., vous fréquentez des gens qui sont en union avec un chef qui est un hérétique ouvert et patent. Le tradi-œcuménisme, c'est l'école du relativisme religieux. C'est pour cela que puisque ça fait déjà quelques générations que les traditionalistes existent, c'est pour cela que les vieux pleurent sur les jeunes en disant « Mais comment est-ce possible qu'après tous les efforts, tous les sacrifices que nous avons faits, la jeune génération soit si molle, soit si peu ?» Mais c'est à cause de vous. N'allez pas ressortir le coup des francs-maçons, des juifs, des ennemis de l'Église. C'est vous, c'est votre relativisme, c'est votre mécréance, c'est vos alliances avec les païens, avec les libéraux, avec les demi-catholiques. C'est à cause de vous que vos enfants n'ont pas la même foi que vous. Ou plutôt, ils ont la même foi que vous, c'est-à-dire ils ont une chose molle, une chose flasque, une chose polymorphe, dont la seule caractéristique est d'être agressive. Mais les gauchistes aussi sont agressifs. Et les Black Blocs sont aussi très agressifs. Et pourtant, ils ne prétendent pas avoir la foi catholique. Donc si c'est ça qui... La seule caractéristique de votre foi, mes très chers frères, c'est l'agressivité, n'importe qui peut être agressif. Et tout ceci se réduit à la passion, et la passion se réduit à la concupiscence, et la concupiscence, c'est l'amour de soi. François est le seul pape possible pour ces gens-là. François est votre pape, mes très chers frères. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que vous racontez? Tous le critiquent. Tous le critiquent, mes très chers frères, et ils font exactement comme lui. Ils font pareil que lui, sauf qu'il y a des nuances différentes. Ils font exactement la même chose que lui. Alors vous allez dire, mais regardez, il a fait quelque chose d'horrible en faisant rentrer dans la basilique à Rome l'image de la Pachamama. Et s'il avait fait entrer une image d'Odin, de Thor, de Freya, de Bacchus, de Zeus? Mais je suis certain que on n'aurait pas dit la même chose, qu'il y aurait eu beaucoup plus de gens qui auraient été compréhensifs pour sa façon de faire. On dit, Benoît XVI, on a des photos terrifiantes de lui, où il allume les lampes d'Hanouka dans une synagogue. Mais s'il avait allumé une bougie sur une tour de Yule, on aurait dit, ah, voilà quelqu'un qui est conscient des origines pagano-blanches de l'Europe, et tout le monde aurait eu une joie délirante. On aurait dit, certes, il y a un aspect païen, mais en réalité, l'Église n'a-t-elle pas toujours, et de tout temps, ça c'est un discours totalement faux, mais qui est très en vogue depuis la fin du XIXe siècle, l'Église n'a-t-elle pas toujours christianisé le paganisme? Alors que fait François? Il ne fait que christianiser le paganisme. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit. Sauf qu'il... Évidemment, son idole a une tête de macaque. Alors évidemment, elle n'a pas une tête d'hyperboréen. Et c'est ça que vous lui reprochez, en réalité, mes très chers frères. C'est ça que vous lui reprochez. Quelle tristesse, vous qui profitez de la fête du Christ-Roi pour envoyer des missiles à tout le monde. Vous, quelle tristesse de voir que vous n'avez pas conscience de cette hypocrisie terrible qui est à l'origine même de votre impuissance. Après tout, François ne fait jamais que, en réalité, ce que faisaient les jésuites au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle en Chine. Et alors on dit, ils ont été très sévèrement repris par Rome, ils ont été très sévèrement excommuniés par les évêques, les légats qui étaient en Extrême-Orient, ils ont été assez, on n'a pas compris le génie, ils avaient eux seuls, contrairement aux autres, aux franciscains, aux augustins, aux augustiniens, aux dominicains qui travaillaient sur le même terrain, on n'a pas compris qu'ils avaient le génie de ce qu'il fallait faire. Mais alors, puisque les jésuites étaient si géniales et que les papes se sont trompés en les condamnant, en les excommuniant et en les supprimant au XVIIIe siècle, alors finalement s'ils étaient si géniales, mais François est le pape alors, réveillez-vous mes très chers frères, et l'unum nunquam est une blague. Alors vous allez dire, mais qu'est-ce que vous dites, vous êtes en train de nous insulter. Non, je crie tout simplement comme le petit enfant de la fable, le roi est tout nu, vous êtes aussi païen que François, vous êtes aussi œcuménique que François. La seule chose, vous l'êtes d'une manière plus restreinte. Et si j'ose dire, vous l'êtes d'une manière qui est plus à droite que lui. C'est tout. C'est tout. La droite, c'est pas l'orthodoxie. La droite, c'est le pendant de la gauche. Ça me fait de la peine d'avoir à dire ça le jour de la fête du Christ roi. Mais si je vous parlerai en des termes grandiloquents de la royauté universelle du Christ qui va venir grâce à vos blogs, grâce à vos vidéos sur l'internet, grâce à tout ça, si je disais cela, mes très chers frères, comme malheureusement ça peut arriver dans les fêtes du Christ roi, je vous tromperais, je ne serais qu'un mercenaire, je ne serais qu'un aveugle qui vous conduirait, ou un borgne qui vous conduirait en direction d'une fosse dans laquelle je saurais très bien que nous allons tomber. En ce jour de la fête du Christ roi, je vous dis, mes très chers frères, vous ne faites pas partie du règne du Christ, et ce n'est pas grâce à vous que le Christ régnera. De toute façon, il n'a besoin de personne pour régner. Alors, mes très chers frères, il faut quand même terminer en disant quelque chose de la doctrine, de la véritable façon d'appartenir au règne du Christ roi. Je ne dirai pas tout ce qui peut être dit, parce que je resterai bref, mais vous voyez, mes très chers frères, il nous faut arrêter de parler du règne du Christ roi, et il nous faut nous soumettre au règne du Christ roi en rectifiant nos vies, en rentrant véritablement dans l'Église par la porte et non pas par la fenêtre, et il nous faut écouter ce que nous enseigne l'Église, de telle sorte que nous puissions juger nous-mêmes, et ce faisant, ne pas être jugés par Dieu, comme dit saint Paul. Écoutez ce que dit saint Paul encore une fois. Rendons grâce à Dieu, mes frères, rendons grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres, et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Voilà une série d'affirmations qui comportent, si nous les comprenons bien, les caractéristiques de ceux qui font véritablement partie du règne du Fils éternel de Dieu. Tout d'abord, saint Paul nous dit, mes frères, rendons grâces à Dieu. La première caractéristique de celui qui fait véritablement partie du royaume de Dieu, sur lequel Dieu, le Christ, règne, et pas simplement d'une façon générique, mais d'une façon particulière, et il règne pour le salut, non pas simplement pour la condamnation, car le Christ règne sur tous les hommes, mais il règne pour le salut simplement de ceux qui lui sont soumis volontairement. Rendons grâce, c'est la première caractéristique, dis-je, c'est la reconnaissance, c'est un amour de gratitude éperdu. Si nous devons faire partie du règne de Dieu, nous devons être éperdument reconnaissants à notre Père céleste de nous avoir rachetés, nous qui étions esclaves du diable et qui gisions autrefois dans les ténèbres les ténèbres du péché et de la concupiscence. Rendons grâces à Dieu. Est-ce que vous rendez grâce à Dieu, mes très chers frères? Alors vous allez dire, oui, je rends grâce à Dieu dans les prières, c'est très bien. Est-ce que constamment, tout au long de la journée, lorsque vous avez un petit moment, vous dites, Seigneur mon Dieu, je vous rends grâce d'avoir fait de moi votre enfant? Alors, comme quelqu'un disait la dernière fois, on n'a peut-être pas que ça à faire. Alors à quoi occupez-vous vos journées si ce n'est pas à être dans la gratitude, à être reconnaissant, mes très chers frères? Avez-vous mieux à faire que d'être reconnaissant à Dieu le Père pour tout ce qu'il a fait pour vous? Vous allez dire, mais il faut vivre quand même. Vivez dans la reconnaissance. Rendez grâce, rendons grâce à Dieu le Père. Dieu le Père, il faut rendre grâce à Dieu le Père. C'est l'amour du Père qui est le fondement de notre rédemption. Si le Père, si j'ose dire, par impossible, si le Père ne nous avait pas aimés le premier, le Christ n'aurait pas pu nous racheter. Pourquoi? Parce que le Père n'aurait pas envoyé son Fils pour racheter ceux qu'il a aimés de toute éternité. Rendons grâce à Dieu le Père. Dieu le Père est donc, l'amour de Dieu le Père est donc le fondement et la raison mystérieuse mais compréhensible de notre rédemption. Si nous sommes ce que nous sommes, mes très chers frères, c'est-à-dire chrétiens, catholiques, c'est que le Père nous a aimés. Si le Père ne nous avait pas aimés, nous serions à 1000 lieues d'ici, nous ferions tout à fait autre chose. Alors vous allez dire, et ceux qui ne sont pas encore, ne vous inquiétez pas, ceux que le Père a aimés, le Christ, le Fils, les attirera à lui infailliblement. Ne vous inquiétez pas et ne dites pas n'importe quoi. Dieu le Père, vous qui êtes ici, vous qui écoutez ce sermon, Dieu le Père, eh bien son amour est le fondement de notre rédemption. Et c'est à lui que nous devons être reconnaissants pour toute l'œuvre de rédemption que le Christ, son Fils, a accomplie. Rendons grâce à Dieu le Père. Dieu le Père qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendus dignes, mes très chers frères. Une autre caractéristique de ceux qui font partie du royaume de Dieu, c'est-à-dire de ceux sur lesquels le Christ règne à salut, eh bien, c'est qu'ils sont dignes. Vous allez dire, oui, nous sommes dignes parce que... Attendez, n'allez pas trop vite. Vous êtes dignes pourquoi? Vous êtes dignes parce que Dieu vous a rendus dignes. S'il vous a rendu digne, c'est qu'autrefois nous étions indignes. C'est-à-dire, c'est une lapalissade. Ah, encore faut-il y penser. Tous ces gens qui s'imaginent être dignes d'être les défenseurs de l'Église, qui ne se rendent pas compte qu'ils n'ont même pas encore officiellement quitté l'indignité de faire partie de l'Église moderniste, de faire partie du paganisme, de faire partie des sectes, que sais-je. Il nous a rendus dignes. Celui qui est véritablement dans le royaume de Dieu, eh bien, sur lequel le Christ règne, est digne d'indigne qu'il était. Nous étions indignes. Nous devons avoir un sentiment profond de la corruption et de l'indignité de l'homme, tel qu'il naît, mes très chers frères, tel qu'il est, tel qu'il vient dans le monde. Et lorsque nous entendons toutes sortes de légiférations pour tuer les enfants à naître, nous devons moins gémir sur l'horreur du meurtre que sur l'horreur du double meurtre qui consiste à envoyer quelqu'un en enfer par un meurtre, parce qu'ils ne sont pas baptisés et que sans le baptême, on ne peut pas être sauvé. Il nous a rendus dignes. Il nous a rendus dignes parce qu'il a fait que nous ayons pu passer par la porte du baptême et la porte des sacrements qui est le baptême. Cette dignité d'enfant de Dieu dont nous a revêtu notre Père Céleste, eh bien, mes très chers frères, elle est en quelque sorte cette source de dignité. Celui qui n'est pas baptisé est indigne. Il peut y avoir malheureusement des baptisés indignes. Mais nous sommes dans l'indignité d'avoir part. Nous ne sommes pas dignes d'avoir part à l'héritage des saints tant que nous ne sommes pas baptisés. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend des choses qui ne sont pas fausses, mais des choses qui, à force d'être répétées univoquement, deviennent blasphématoires. On dit, mais n'importe qui peut baptiser. Demandez au premier chien qui passe, c'est-à-dire au premier païen qui passe, de vous baptiser. Et puis ensuite, comme ça, vous serez catholique. Non, mes très chers frères, si la théologie nous dit que, en cas d'extrême nécessité, il se trouve qu'un baptême perpétué par un païen pourrait être valide, s'il a l'intention de l'Église, en revanche, le ministre ordinaire du baptême, c'est le prêtre. Et dans l'Église primitive, le ministre ordinaire du baptême, c'était l'évêque. C'est l'évêque qui fait rentrer dans l'Église. C'est par le baptême octroyé par un prêtre catholique, ordonné à un évêque, que l'on rentre légitimement dans l'Église catholique. Il y a des gens qui arrivent et qui se prétendent champions de l'Église et qui ont tout juste un baptême reçu chez les modernistes. On ne sait même pas s'ils sont vraiment valides, s'ils sont invalides. A priori, on doit les considérer comme valides, mais disons qu'aujourd'hui, il faut vérifier. Et tout d'un coup, ils critiquent leur pape avant même d'avoir été agrégés à la véritable Église. Mes très chers frères, nous étions indignes, craignons d'être indignes. Vous allez dire, mais je suis baptisé, donc je suis digne. Il nous a rendus dignes. Ce n'est pas moi qui me suis octroyé ma dignité, c'est le Père céleste qui nous a rendus dignes. Craignons de déplaire à notre Père céleste et de retomber ainsi dans l'indignité. Il nous a rendus dignes. Qui dignos nos fecit. C'est lui qui nous a fait dignes. Craignons l'indignité. Alors vous allez dire, l'indignité, c'est quand on commet des péchés épouvantables. Non, oui, évidemment, mais non, l'indignité commence quand on est désordonné. L'indignité commence quand on parle et qu'il ne faut pas parler, quand on se tait et qu'il faut parler, quand on fait quelque chose alors qu'on devrait faire autre chose. L'indignité, mes très chers frères, c'est quelque chose qui nous est native. Et c'est pour ça que le Père nous a rendus dignes, parce qu'il nous a élevés au-dessus de notre condition native. D'indignes que nous étions, il nous a rendus dignes. Ayons un très grand sentiment, un profond sentiment, et cela nous caractérisera, mes très chers frères, un profond sentiment de la corruption de l'homme, de cette terrible concupiscence qui est constamment à l'attaque, à l'assaut de notre cœur, pour nous rendre, pour triompher de nous, et pour se rendre prévalente, et pour nous rendre indignes d'avoir part à l'héritage des saints. Il nous a rendus dignes parce que nous sommes intrinsèquement indignes. Il nous a rendu digne, quoi donc ? Une autre caractéristique, d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. Nous sommes les moindres des saints. Saint Paul, qui était le paraître de Saint Pierre, Saint Paul, l'apôtre des nations, a dit « Moi qui suis le plus petit de tous les apôtres, je suis le moindre des saints, disait-il. » Si Saint Paul était le moindre des saints, que sommes-nous, nous ? Que suis-je, moi ? Alors, mes très chers frères, au lieu de s'imaginer que notre position de militant nous rend intrinsèquement dignes de prêcher la parole à virtuellement 6 milliards d'êtres humains, grâce à notre blog et à nos vidéos, rendons-nous compte plutôt que nous avons été rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints et dont nous sommes les moindres. L'Église n'attend pas son salut de votre activité, mes très chers frères, mais nous attendons notre salut de ce que nous sommes membres de la seule et véritable Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette Église de notre Seigneur Jésus-Christ, on ne peut pas y rentrer et en sortir indifféremment, on ne peut pas indifféremment manger à tous les râteliers, on ne peut pas indifféremment... Les temps sont durs, mais ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. L'héritage des saints, c'est, pour le dire en bref et pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait d'avoir part à l'Église catholique ici-bas. Bien sûr, l'héritage des saints dans la lumière, c'est aussi la béatitude éternelle et c'est tout ce qui va avec, bien entendu. Mais nous parlons pour les chrétiens en état de voie, pour l'Église militante. Il se trouve, mes très chers frères, que cet héritage dont par le baptême nous avons été rendus dignes, il ne faut pas y rentrer et en sortir en permanence, sous prétexte qu'on ne peut pas faire autrement. L'héritage des saints, une autre caractéristique, c'est le contraire de l'héritage des malsaints, si j'ose dire, enfin pour faire un jeu de mots, c'est-à-dire des païens. On ne peut pas entretenir des liens d'amitié, des liens, a fortiori des liens d'amitié, des liens de fréquentation, a fortiori des liens d'amitié, avec des mécréants. On peut être poli, on peut professionnellement devoir avoir affaire à eux, donc sinon on ne pourrait pas vivre dans ce monde, comme dit saint Paul, mais il se trouve qu'il ne faut pas les introduire dans l'intimité de notre foi, de notre foyer, de notre vie structurée selon la dignité que nous avons reçue de l'amour de Dieu le Père, pour lequel nous devons rendre grâce. L'héritage des saints, ce n'est pas l'héritage des chiens. Nous ne devons pas profaner notre héritage, mes très chers frères, en partageant nos forces avec les païens. On ne peut pas mettre un âne et un bœuf sous le même joug. C'est une chose qui est interdite par la loi de Moïse, et le Christ ne peut pas avoir affaire avec Bélial. Si nous essayons d'atteler le Christ et Bélial ensemble, eh bien, nous assujettissons le Christ au règne de Satan. Alors vous allez dire, mais cela récuse toute possibilité d'action politique, etc. Commencez par être ordonné, commencez par chercher le royaume de Dieu et sa justice, et vous verrez si toute chose ne sera pas donnée par surcroît. Si vous n'avez pas tout le reste, c'est que vous n'avez pas le premier, le fondement, les prémices. Il nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière de la grâce, la lumière de la foi orthodoxe, cette foi qui n'est pas une foi morte, la foi des démons, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres. Voilà une autre caractéristique de ceux qui, sur lesquels le Christ règne à salut. Il nous a arrachés. Arrachés comment ? Par sa grâce souveraine et irrésistible. Nul ne résiste à Dieu. Il peut y avoir des résistances locales, des résistances temporelles, bien entendu, cela ne se voit que trop, mais nul ne résiste à la volonté toute-puissante du Dieu qui aime et qui sait aussi réaliser concrètement son amour. Il nous a arrachés. Combien d'entre nous, mes très chers frères, s'imaginent être venus à la foi, à la vraie foi, quel que soit le sens que vous donniez à ce terme, à cette expression, à la vraie foi, par un effort intellectuel, par des bonnes dispositions, par un cheminement exceptionnel, etc. Grâce à moi, c'est moi qui me suis, auquel je dois mon orthodoxie. Eh bien non, mes très chers frères. Si c'est le cas, et je veux bien croire que ça soit le cas, eh bien vous ne faites pas partie du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est composé de gens qui ont été arrachés à la puissance des ténèbres par le bras tout-puissant du Dieu tout-puissant et souverain. Il nous a arrachés à la puissance des ténèbres. Nous étions autrefois ténèbres et nous sommes maintenant lumière dans le Christ. Ce que nous étions autrefois, nous étions ténèbres. Et c'est ce que sont les infidèles. Les infidèles, les mécréants, les demi-catholiques, les païens et les autres, les libéraux, les marcionistes, sont des gens qui sont sous l'influence, l'emprise du diable. Ça fait un peu naïf de le dire, mais c'est la réalité. Et vous n'êtes plus dans les ténèbres, mes très chers frères. N'ayez aucune part avec eux et condamnez leurs actions. Et c'est saint Paul qui le dit. Il nous a arrachés par sa grâce souveraine et irrésistible aux ténèbres que nous étions autrefois et qui étaient notre royaume naturel, puisque nous étions nés dans les ténèbres, sujets du diable, enfants du diable. Et une autre caractéristique, c'est qu'il nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il nous a transplantés. Ce n'est pas simplement qu'il nous a fait venir comme des migrants passant du royaume du diable au royaume de Dieu. Il nous a transplantés. C'est-à-dire que nous étions une plante vénéneuse, nous faisions partie de cet olivier franc, cet olivier stérile, cet olivier indigne, et il nous a transplantés miraculeusement, il nous a greffés dans le bon olivier, le véritable olivier, de telle sorte que nous soyons des rameaux, rapportés certes, mais de véritables rameaux de cet olivier. Ce que nous étions autrefois, c'est que nous étions ténèbres. Et depuis que nous avons été transplantés, nous devons nous enraciner dans cet olivier de l'Église par la charité, dans l'humilité. Et c'est le contraire de l'orgueil. Un chrétien orgueilleux, ça n'existe pas. Si vous êtes orgueilleux et que vous croyez chrétien, c'est que vous vous trompez quelque part. Et comme vous ne pouvez pas vous tromper sur le fait que vous êtes orgueilleux, c'est donc que vous n'êtes pas chrétien. Si vous êtes chrétien et qu'il vous semble que vous avez une tendance à l'orgueil, et que vous combattez cette tendance à l'orgueil, alors vous êtes chrétien, et c'est une tentation, et nul n'est sans tentation, puisque la vie ici-bas n'est qu'une grande tentation, n'est qu'une grande lutte contre les tentations. Mais si vous êtes particulièrement orgueilleux, et que votre orgueil se traduit par des actes de christianisme, alors c'est que vous n'êtes pas chrétien. Il faut beaucoup d'orgueil pour se croire un champion de l'Église. Il faut beaucoup d'orgueil pour s'imaginer être celui qui va jeter les semences de la société catholique de demain. Il faut donc ne pas être catholique. Il nous a transplantés pour que nous nous enracinions dans la charité, dans la charité par l'humilité. Ça, c'est une autre caractéristique de ceux sur lesquels le Christ règne pour le salut. En qui, son Fils, le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que c'est dans le Christ, in Christo, en lui, nous avons, sans lui, nous ne pouvons rien faire, par lui, nous pouvons tout. Nous avons la rédemption par son sang. Nous ne sommes que des lépreux guéris, mes très chers frères. Et si il se trouvait que ce sang précieux du Christ venait à être enlevé de nos veines, si j'ose dire, nous recommencerions à tomber en lambeaux comme de misérables lépreux que nous étions. Nous sommes véritablement guéris. Nous sommes rendus justes par la justice du Christ. Nous sommes véritablement sanctifiés. Ce n'est pas une illusion fictive, comme le pensent les protestants, un manteau mis sur un lépreux qui reste lépreux. Nous sommes véritablement des enfants en bonne santé de notre Père céleste. Mais c'est parce que le sang du Christ coule dans nos veines. Si ce sang du Christ, nous le chassons par le consentement à la concupiscence, par le consentement à l'orgueil, par le désordre, alors véritablement nous retombons dans ce que nous sommes, c'est dans ce que nous sommes finalement nativement, c'est-à-dire des cadavres putréfiés, des lépreux qui tombent en morceaux. Hors du Christ, il n'y a que la condamnation, mes très chers frères. C'est pour cela que saint Paul dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. C'est par le sang du Christ que nous avons la rédemption. Et je vous fais remarquer qu'il y a quelque chose de scandaleux et de choquant, et c'est pour cela qu'on préfère dans la notion de rédemption par le sang du Christ. Lorsqu'on parle à un demi-catholique, à un libéral, à un moqueur, à un catholique sociologique, à quelqu'un qui défend le catholicisme parce que c'est la culture de l'Europe, et qu'on lui parle de la rédemption par le sang du Christ, il se met à ricaner. Et il nous traite de naïfs, ou il nous traite un peu d'archaïque, de barbare, parce que c'est une notion qui n'est finalement qui ne cadre pas vraiment avec les canons culturels. Nous n'avons la rédemption que par le sang du Christ. Dans la mesure où le sang du Christ n'est plus sur nous, mes très chers frères, nous sommes des chiens, nous sommes des infidèles, nous sommes des lépreux, nous sommes des maudits. Malheur à celui qui se moque du sang du Christ. Nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. Voilà une autre et une ultime pour aujourd'hui caractéristique de ceux qui font partie du royaume de Dieu, de ceux sur lesquels le Christ règne à salut. Ils ont la rémission des péchés. Autrefois, nous n'avions pas la rémission des péchés. Tous les péchés que nous avons faits ont été pardonnés, ont été effacés par le baptême, si nous sommes, nous avons été baptisés adultes. Le péché originel a été effacé, la dette du péché originel a été effacée par le baptême. Tous nos péchés sont effacés par le sacrement de pénitence. Et si nous avons véritablement les dispositions pour recevoir ce sacrement. Maintenant, cette rémission des péchés n'est pas pour nous si nous aimons nos péchés. Nous avons été rachetés et réconciliés. Eh bien, mes très chers frères, que cela se manifeste par la justice, par la reconnaissance. Le Christ a donné sa vie pour nous. Ne nous épargnons pas nous-mêmes, mes très chers frères, et ne craignons pas de trop donner à Dieu. Mes très chers frères, que le Christ règne dans nos vies, qu'il règne dans des vies humbles et ordonnées. Et vous serez véritablement, s'il règne sur vos vies en étant humble et ordonné, eh bien, vous serez au cœur même de son royaume. Moins vous en parlerez, plus vous vivrez en chrétien, et plus vous serez utile pour Dieu, qui est notre roi, notre père, et celui hors duquel, eh bien, il n'y a que la condamnation, que la colère de Dieu, mais en lequel nous trouvons l'amour, cet amour qui nous mène à la vie, cette charité qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a transplantés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Soyons soumis au Christ roi, véritablement, mes très chers frères, et lui-même nous guidera et nous conduira comme un berger son troupeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci. Merci.